franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Votre invitée Léa Salamé a été ministre de la Culture, elle est députée de Moselle.
Bonjour Élie Filippetti.
Bonjour.
Pourquoi vous restez au Parti Socialiste ?
Parce que je crois que... Moi, je crois dans les idéaux que porte le Parti Socialiste, c'est-à-dire une gauche qui est réaliste mais ambitieuse, qui est fidèle à son histoire, celle du monde ouvrier, celle des grandes conquêtes sociales et qui en même temps veut affronter les défis de la mondialisation.
Le Parti Socialiste actuel vous répond à...
Non.
Conduit cet idéal-là ?
Non, pas dans son fonctionnement actuel, mais dans ses idéaux affichés en tout cas. Y compris ceux d'ailleurs qui ont été votés à une écrasante majorité l'année dernière au congrès de Poitiers, puisque dans la motion qui est arrivée en tête, eh bien finalement, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait se retrouver. C'était plutôt une motion de gauche, social-démocrate, dans laquelle il y avait par exemple pas évocation d'un bouleversement des règles de la négociation sociale ou du droit du travail. Je crois que ces idées-là, elles sont modernes, elles sont d'actualité, elles sont capables d'affronter la crise économique. Alors, et la mondialisation.
Vous dites moderne, Manuel Valls parle de conservateur en parlant des frondeurs, en parlant de vous. Manuel Valls dit qu'il a mal au cœur. Il a mal au cœur d'utiliser le 49-3.
Ça ne s'est pas vu, parce que visiblement, il l'avait préparé de longue date. Ce qui s'est passé dans la manière dont a été conduit le débat parlementaire, enfin... L'ébauche, le simulacre de débat parlementaire montrait qu'en fait le gouvernement avait envie de passer en force dès le début. Je m'explique. D'abord, il y a eu 5 jours qui ont été programmés pour un débat aussi important et aussi qui faisait autant polémique dans la société française. Seulement 5 jours, c'était pas beaucoup. Et ensuite, dès le début, dès l'article premier, on nous a empêchés de voter sur nos amendements. Donc on nous a laisser parler, c'est bien le moindre, mais on ne pouvait pas voter sur les amendements. Et puis, le deuxième jour, on annonce le 49-3. Donc finalement, il n'y a eu aucun débat parlementaire réel sur un texte qui vise à transformer les négociations sociales dans le pays.
Sur un texte sur lequel Manuel Valls a fait beaucoup de concessions par rapport au projet de loi initial, sur les indemnités prud'homales, sur les licenciements économiques pour les groupes qui font des bénéfices à l'étranger notamment. Il est allé beaucoup dans votre sens, il vous a écouté, en tout cas vous et les syndicats. Rien ne vous convainquait.
Non, ce n'est pas vrai, parce que il y a eu des améliorations qui ont été apportées par rapport à une première version, franchement, que le MEDEF semblait avoir écrite.
Mais la deuxième version, le MEDEF n'en voulait plus. Le MEDEF a dit qu'il n'y a plus rien.
Il y a eu un travail en commission important, auquel d'ailleurs nous avons participé. Mais il restait des points durs. Et les points durs, c'était quoi ? C'était, par exemple, vous me parlez du licenciement économique. Bon, le périmètre, il a été modifié hier matin, dans une réunion à Matignon, mais on n'en a jamais discuté dans l'hémicycle. Mais surtout, la définition même du licenciement économique, elle est restée, qui dit, en fait, on prend des éléments divers qui sont listés, et puis il y a, à la fin, ou tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Bon, ça, c'est beaucoup trop vague. Bon, sur la question de l'inversion de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi, elle doit protéger, que l'accord de branche peut donner plus de sécurité et l'accord d'entreprise encore plus de sécurité. Bon, normalement, c'était ça, que ça fonctionnait comme ça. Là, il y a une inversion. Donc, on veut donner la primauté à l'accord d'entreprise. Nous, on disait simplement, on demandait une seule chose. C'était qu'il soit inscrit dans la loi que l'accord d'entreprise ne pouvait être que plus favorable aux salariés qu'un accord de branche. Ça nous a été refusé.
Est-ce que vous allez voter la motion de censure déposée par la droite et le centre ?
Tout d'abord, on va essayer de rédiger nous-mêmes, les députés de gauche opposés à ce texte, nous-mêmes, de déposer.
Vous avez rendez-vous à 11h et vous allez vous compter, parce qu'il faut que vous soyez 58.
Il faut qu'on soit
très clair
58.
Pour déposer une motion de censure.
Voilà, c'est très important de comprendre que vraiment la procédure parlementaire est très stricte. Il faut être 58 députés pour pouvoir simplement déposer une motion de censure.
Est-ce que
Donc,
58 ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et on essaye évidemment avec les députés de toutes les gauches, les députés Front de Gauche, les députés écologistes, on a évidemment porté une vision qui était très semblable, celle de défendre davantage les droits des salariés. On essaye de trouver ensemble...
Si vous n'y arrivez pas, Aurélie Filippetti, est-ce que vous allez, pour la première fois, aller jusqu'au bout de vos convictions et voter la motion de censure ?
On en discutera tout à l'heure, collectivement, parce que nous, on a envie de travailler collectivement et de ne pas, finalement, nous retrouver dans des démarches individuelles.
Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre. Ça fait 2 ans que Manuel Valls est au pouvoir, 2 ans qu'il fait une politique que vous désapprouvez, vous faites des tribunes, vous faites des médias pour dire on désapprouve, et à la fin c'est Valls qui gagne, il fait passer ses textes.
Ben ça c'est le problème de la Ve République, vous savez. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on voit que ce système, il est quand même à bout de souffle. On avait déjà une diarchie, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, on voit bien que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, puisque finalement il y a une tension au sommet de l'exécutif qui est néfaste à tout le monde. Mais en plus, quand le Parlement est ainsi totalement mis sur la touche, pour un texte qui, par ailleurs, prétend renforcer le dialogue social, on voit qu'il y a vraiment un énorme problème. On n'imaginerait pas ça en Allemagne. Et pourquoi ? Parce que, d'abord, en Allemagne, il y a une culture du compromis
réel, qu'on n'a pas en France.
Mais en plus, parce que l'Allemagne, c'est un vrai système parlementaire. C'est-à-dire que Angela Merkel ne peut pas passer outre sa majorité parlementaire. On est quand même vraiment dans une situation de passage en force à la fois politique, mais aussi sociale. Parce que ce que je rappelle, c'est que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter ce texte. Et il n'y a pas non plus de majorité dans le pays pour le soutenir.
Le 49-3, c'est un outil constitutionnel et il y a une manière de le contrer. Ça s'appelle la motion de censure que vous n'êtes pas sûr de voter.
Mais ceci dit, le fait que le gouvernement ait recours au 49-3, ça montre qu'il n'avait pas de majorité et ça dépasse bien le cercle de ceux qu'on appelle les frondeurs.
Pour changer les choses, vous vous dites favorable à des primaires à gauche, très bien. Quand Arnaud Montebourg dit le week-end dernier, s'il y a des responsabilités à prendre, je les prendrai. Ça veut dire qu'il est candidat à ces primaires à gauche ou j'ai mal compris ?
Ben, il le dira lui-même, vous savez, il s'exprimera. Il s'est exprimé la semaine dernière et il s'exprimera encore lundi.
Au
Mont-Beuvray. Moi, je suis dans un débat qui correspond à mon rôle, à moi, qui est d'être députée. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à trancher. C'est pas une période facile pour un député de la majorité socialiste qui a participé à l'élection de François Hollande de se retrouver dans cette situation.
Depuis 48 heures et la révélation de France Inter sur l'affaire Baupin, on entend toute une série d'élus, de femmes, députés et autres, libérer leur parole sur le sexisme en politique. Pourquoi vous n'avez pas signé le texte hier, paru dans Libération, 500 élus femmes pour dénoncer l'omerta ?
Parce que j'en ai marre que les choses ne bougent pas. Et qu'on en a fait beaucoup, des textes. Moi, j'ai souvenir qu'au moment de l'affaire DSK, on avait fait, justement, dans Libération, une grande tribune avec plusieurs responsables politiques femmes. Et en fait, on voit, quelques années plus tard, que ça n'a pas bougé, que les comportements n'ont pas changé.
Là, on voit avec l'affaire Baupin que ça bouge. Les femmes parlent.
Voilà, alors il y a des femmes, et je pense que Thomas Legrand a raison, c'est parce que c'est au sein du parti écologiste que ça a pu bouger. Parce qu'il y a cette culture de la parité, du respect des femmes dans ce parti, qui fait que finalement, l'affaire Baupin a pu ainsi sortir.
J'ai entendu un homme dire, ces dernières 48 heures, je ne citerai pas, dire « ça va être difficile maintenant pour nous d'être des hommes, parce qu'entre un compliment ou un regard un peu de travers, on va virer un système à l'américaine ».
Non mais c'est ça, c'est qu'ils agitent ce fantasme d'un puritanisme dont on serait les incarnations, non. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement du respect et de l'égalité afin que, justement, les relations hommes-femmes puissent être joyeuses, gaies et dénuées de toute espèce de malaise. Parce que c'est ça le pire, c'est que ça crée vraiment du malaise.
Aurélie Philippe-Pétier, notre invitée, belle journée à vous.
Merci à vous, Léa Salamé. Il est 8h03.